Bonjour.
À l'écoute de Radio Méga, bienvenue dans un Underscore. Avis aux otaku, soyez attentifs car c'est l'heure des japonaiseries, alors à vos baguettes préparées.
Salut chers auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur Radio Méga avec Cécile et Mumuman.
Et toi Anya, bonjour. Alors, nous allons décrypter un petit peu d'actualité aujourd'hui.
Oui, et très intéressante et alléchante.
Lisa avait raison, nous allons faire un peu de japonaiserie.
Puisque bientôt va se dérouler sur la Parc des Expos à Villepinte, à Paris. Effectivement, nous aurons donc la Japan Expo, tant connue pour les cosplays et pour les japonaiseries, comme on disait. C'est parti en tout cas pour les actualités.
Et voilà, donc l'actualité du jour, donc un retour sur InnoRobo qui s'est passé au mois de mai à Paris. Donc en dehors du fait d'avoir vu des nouveaux robots comme le robot qui nettoie le barbecue, celui qui reconnaît les clients dans le magasin, ou bien...
La prothèse de main automatisée.
Oui, le robot qui stimule le cerveau, les capteurs à distance miniature. Moi, je voudrais vous parler de l'Enby. Donc l'Enby, c'est le dernier robot de Subdroid. Donc, c'est une entreprise limogeoise, donc de Limoges, qui, contrairement à certaines qui se sont fait racheter par des Japonais...
Pas de nom, hein.
On ne citerait pas de nom.
Nihonjin.
Voilà. Donc, voilà, c'est un robot, le tout dernier robot de Subdroid est un robot qui a été prévu pour accompagner les gens. Donc, il est capable de rouler tout seul. Donc, c'est un robot qui évolue... et qui roule avec des petites roulettes. Donc c'est un robot qui fait 1m40 pour 30 kg. Il est capable d'avoir pas mal d'autonomie en termes de... Je crois que c'est 8 heures, c'est assez énorme. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un ordinateur... C'est un robot qui est tout à fait capable d'être autonome puisque son ordinateur est déjà dans le robot.
Il n'y a pas de fil à la patte.
Et ce qui fait que pendant le salon InnoRobo, il a pu faire quelques courses tout seul.
Cool.
Bonjour, avez-vous besoin d'aide? Êtes-vous malade?
Va me chercher, j'ai déjà commandé au drive.
Donc ses gros points forts, effectivement, sont la possibilité de l'accessoiriser. Donc il peut porter un plateau.
Donc c'est un petit Baymax au final.
Voilà, et il est capable aussi d'avoir des applications dans l'événementiel, mais aussi dans l'assistance des personnes. Il peut faire de la détection de visage, il a la reconnaissance vocale, il possède un lecteur RFID, et puis voilà, il est sympa. Et voilà, c'est le tout dernier qui est arrivé. Donc à l'intérieur, il y a un ordinateur Intel de Core i7 avec 8 Go de RAM, et malheureusement, il tourne. Windows.
Mais c'est pas libre. Alors ça veut dire qu'en plus il va espionner tout ce qu'on va faire.
Il va envoyer toutes les infos à Windows. C'est invendu.
Oui, alors ils auraient peut-être préféré choisir une autre solution, mais voilà.
De toûte façon, je suis même pas sûr d'avoir le budget. Combien
c'est pas ça,
coûte, ça
c'est surtout qu'à mon avis, pour les utilisateurs lambda, le plus facile pour eux, c'est Windows, puisque c'est ce qu'ils connaissent. Ils ont pas envie de.
C'est pas le plus facile.
Oui,
c'est ce qui les sort le moins de leur zone de confort. C'est pas pareil.
C'est ça.
Donc voilà, à découvrir l'Enby.
Ouais, mais de toute façon, je suis pas sûr d'avoir le budget. Combien ça coûte, ça?
Ça coûte un peu 21 000 euros.
Ah oui, on va peut-être attendre un peu, alors.
Deux bras et un rein, quoi, à peu près.
Mais voilà, c'est intéressant. Donc voilà, avis aux amateurs. Et puis, nous passons à la suite avec Framasoft.
Oui, alors, il y a un nouveau service chez Framasoft qui s'appelle Framateam. Ça sert à vous libérer vos équipes des groupes Facebook et de Slack, par exemple. Donc, je vous laisserai découvrir ça. On va mettre le lien sur le blog AAA.fr. Sinon, il y a Microsoft qui arrête les téléphones et donc Nokia qui revient. Ça va être
amusant.
Ouais, ils nous avaient dit, non, on va faire des téléphones, Windows Phone et tout. Il y en a qui en a... Bon. Et alors,
vendu du libre, va.
Non, je suis...
Il ne voit pas de quoi tu parles.
Non,
je ne suis pas vendu du libre.
Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Et puis, alors, il y a un équipement médical qui a planté durant une opération du cœur. On a appris ça à cause d'un scan d'antivirus au mauvais moment.
Ah bah, non,
mais voilà, sous Linux, il n'y a pas besoin d'antivirus. Donc, enfin bon.
La base de données via le VPS a été mise à jour.
C'est un peu ça, ouais.
Attention, votre ordinateur va s'upgrader en Windows 10.
Ah, pas maintenant.
La redémarrage.
Je suis sur la valve mitrale.
Redémarrage est en cours.
En fait, alors ils ont quand même réussi à terminer l'opération, hein, heureusement. Ils ont paniqué un peu les chirurgiens. Et En fait, l'incident a eu lieu en février 2016, et bon, on n'a pas donné le nom de l'hôpital, mais bon, tout ça, c'est parce qu'en fait, c'était un problème de configuration. Hein. Le fabricant avait bien dit dans sa documentation qu'il fallait désactiver l'antivirus et tout, mais c'est quelqu'un, il n'y a personne qui l'a fait.
Manque de communication encore. Et voilà. Puis, Adopi, ce n'est pas fini ?
Non, bah, on vous avait annoncé la fin pour 2022, alors en fait...
On va bientôt les achever, vous inquiétez pas. Ils sont en train de boiter là, ils sont au sol, ils rampent.
Non mais bon, ils vont, enfin voilà.
Tel le phénix qui renaît de ses cendres.
Ils essayent.
Et en fait,
on leur a dit arrêtez de leur envoyer des queues de phénix, ça suffit.
En fait, il s'agissait d'un amendement sur un projet de loi en cours de discussion, hein, donc c'était pas validé. Et là, bizarrement, le gouvernement a demandé au Sénat de faire sauter cet amendement. Donc en fait, ben, ça finira pas en 2022. Bon, d'ici là, on a le temps de voir venir. Hein. Rappelons que le candidat Hollande avait quand même promis de supprimer cette haute autorité pour la distraction des opprimés du peer-to-peer et de l'Internet.
Oui, en attendant, ils ont supprimé la prime Pôle emploi. Hein. La prime pour l'emploi.
Ce petit lapsus, là. Révélateur, d'ailleurs.
Oups. Sinon, eh ben, on vous a déjà parlé de Kung Fury il n'y a pas longtemps. Et ben, dans Underscore numéro 16,
il va y avoir une suite.
Il paraît. Ouais. On a vu ça, on vous en dit pas plus. Hein, voilà, spoilers.
Oui, j'ai juste vu un petit bandeau rouge sur un script.
Voilà.
Alors, nous allons passer à la petite pause musicale et nous allons revenir tout de suite après avec nos japonaiseries.
Voilà, de retour.
Et oui, vous
pour
avez...
jouer un mauvais tour. Non, je ne vais pas vous refaire les...
Non,
la c'était... Team Rocket plus rapide que la lumière.
Nous avons écouté Réminiscence de Ayam Manulis, donc un auteur-compositeur qui est bien barré dans les années 70-80. Donc voilà, mon petit kiff perso. Et nous allons passer tout de suite à notre sujet du jour.
Les mangas et un peu de culture japonaise, puisque justement, les mangas, il y a de la culture derrière.
Eh ben oui, Anya ou Père Castor, raconte-nous ton histoire.
Ben oui, pourquoi autant de fans de l'univers des mangas, et en l'occurrence le Japon, puisque le manga en dérive forcément au bout d'un moment aux Japonais, enfin le magnifique, magnifique pays du Japon. Et donc oui, Japan Expo qui va bientôt se dérouler, donc qui est l'un des salons les plus fréquentés en France, aura lieu donc du 7 au 10 juillet, et il faut savoir que cela a débuté il y a longtemps, puisque seuls les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est bien sûr le Club Dorothée. Donc le Club Dorothée qui était à l'époque sur TF1, on a connu, on va dire, les bases un peu du manga à l'époque. Donc on avait Dragon Ball, Nicky Larson, enfin tous ces mangas qui ont marqué notre enfance et qui ont laissé des traces forcément encore aujourd'hui. Voilà, on peut aussi dire Sailor Moon, je peux vous en citer plein. De toute façon, on a chacun nos préférés et nos favoris. Donc tout le monde vous en pourra parler pendant des heures et des heures.
Ne citons pas Crimi,
Cat Size, tout ça si vous voulez. Enfin voilà, ça peut aller très loin. Mais bien sûr, tout ça est une origine, puisque tout le monde se dit, mais oui, mais les mangas, c'est un peu bizarre. Les gens ont du mal à connaître ou à accrocher. Mais il faut savoir qu'au début, c'était très culturel, le manga, puisque le manga est apparu, on va dire le mot manga, qui voulait dire dessin dérisoire en japonais, est apparu avec Hokusai, un illustrateur japonais qui faisait des belles illustrations d'estampes japonaises. Donc on a notamment la vague, la fameuse vague qu'on connaît de Hokusai, où on voit une sorte de vague, un peu de tsunami, qui apparaît, cette vague qu'on connaît depuis des années. Et le mot manga est apparu dans ses petits carnets. Il en a fait à peu près au total, je crois, 14 carnets, qui en fait sont des dessins expliquant en fait des mouvements du quotidien. Donc on a les mouvements du sabre, les mouvements de nettoyage de vêtements de certaines femmes, où en fait il analysait les mouvements et les redessinait. Et c'était pour lui des dessins dérisoires, dont il a appelé le mot manga. Donc aujourd'hui, le manga a pris beaucoup d'importance, puisque justement, ça a débuté par... comment il s'appelait déjà ? Mince, j'aurais dû noter le nom.
Parce que j'aime bien
y aller au culot, parce que moi, je prépare jamais rien, je suis spontanée, si vous voulez. Qui est donc à commencer des mangas qu'on connaît très bien, et qui ont fait aussi un peu inspiré Disney. Le roi Léon, notamment, donc le roi Léon. Je vais me rappeler de son nom, ça va me revenir à un moment donné.
Ah oui, mais je vois de qui tu parles.
Voilà, qui, à lui, était le plus prolifique, il faut savoir.
J'espère que tous nos auditeurs aussi, vous avez compris de qui on parle.
De toute façon, il faut savoir que c'est l'un des plus prolifiques. Il a créé plus de, je crois à peu près, c'est Osamu Tezuka, qui a fait plus de 50 mangas. C'est l'un des plus prolifiques.
Énormément. Je vois de qui tu parles.
Voilà. Alors, Osamu Tezuka, pour pas citer, c'est le premier mangaka de l'histoire, celui qui a publié les premières histoires de manga.
Un mangaka, c'est quelqu'un
qui est dessinateur et qui écrit ses mangas. Maintenant, ça a un peu changé, ils sont un petit peu équipiers. On a de grosses équipes de mangas, ça évolue beaucoup. Ils sont dans des petites pièces, ils peuvent être 10. L'un qui va faire les petites estampes, vous savez, les petits traits, les petits boutons, les petits effets qu'on a dans les dessins de noir et blanc, parce qu'il faut savoir qu'on a des dénués de couleurs ou de formes. Et on a ceux qui vont écrire aussi l'histoire, qui sont d'un côté, et ceux qui vont dessiner.
Les scénaristes.
Voilà. Donc on a maintenant beaucoup de dérivés, mais celui qui fait encore tout seul, il commence à en avoir de moins en moins, mais il y en a toujours. Puisque de toute façon, à la base, un manga se faisait tout seul, par le mangaka. Voilà, donc on a eu ce fameux Osamu Tezuka qui a lancé et promulgué le manga. C'est lui qui a fait l'explosion du manga à travers le monde aussi, puisqu'il a été l'un des plus importés aussi à l'étranger. Et à la suite, on connaît tous les mangas actuels. On a donc les Naruto, fameux Naruto qui s'écoule à des millions et des millions d'exemplaires.
Oui,
et
Dragon avant, Ball, c'était les Dragon Ball, ouais.
Mais Dragon Ball est toujours en tête des ventes, faut savoir. C'est pas encore fini.
J'en ai vu des exemplaires dans le train en rentrant.
Donc voilà, c'est toujours d'actualité. Et donc voilà, les origines du manga, pour ceux qui ne connaissaient pas, ce sont des informations assez intéressantes. Donc je vous invite aussi à voir ce que Hokusai a créé. C'est un illustrateur d'estampes très prolifique, il faut savoir. C'est un des personnages qui n'a jamais été satisfait de ce qu'il faisait, qui a toujours continué à dessiner. Très acharné, on va dire, de son travail. Il a eu plusieurs noms aussi, il faut le savoir. Hokusai, c'est un des noms les illustres qu'on connaît, mais il a eu plusieurs noms. Et il y a aussi un manga qui raconte l'histoire de Hokusai, s'appelle Hokusai, d'ailleurs.
Alors moi, c'est juste, j'ai une question par rapport à tout ce sujet. Qu'est-ce qui a fait que les gens accrochent au manga autant? Est-ce que c'est la source, justement, des histoires qui sont racontées dedans? Comment ça...
Alors,
les gens accrochent?
Justement, je pense que ce qui va faire, qui va plaire plus à des gens dans les scénarios de manga, c'est que ça change des scénarios américains, toujours un peu bateau, où on a, on va dire, la ligne directrice, on connaît très bien ce qui va se passer vers la fin.
Ah, je suis les gentils, voilà. Moi le méchant.
Un manga, ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup d'inattendus, en fait, dans le scénario. Il n'y a pas souvent les mêmes choses. Après, on a aussi les mimiques, qui sont assez typiques et qui nous font rire.
Les gros yeux.
Les gros yeux, forcément, qui sont très mythiques, mais oui, il y a les expressions.
Même... C'est très caricatural, hein, aussi.
Voilà, très caricatural. Et les histoires aussi avec la beaucoup de rebondissements dont on ne s'attend jamais.
Ou la goutte d'eau.
Oui, la goutte d'eau, on a tous ces fameux éléments qu'on connaît beaucoup. Il faut savoir que c'est aussi émergent de la culture japonaise. Les Japonais s'expriment de manière très expressive et un petit peu bizarroïde, genre « Oh !» Ils vont un peu exagérer leurs expressions,
oh,
toujours
mais
au quotidien.
Bien ce truc.
Même les femmes japonaises, elles font « Ah !» ou elles font « Ah !» ou « Mais !» ou « Aeta !» ou des choses du genre. Ou ces mots-là, « Aeta » qui veut dire « j'ai faim », ils vont toujours le dire avec beaucoup d'expressions. Ils miment beaucoup ce qu'ils disent pour s'exprimer.
Et oui, en même temps, ils ont des muscles pas tout à fait comme les nôtres.
Bon. C'est un peu des Italiens, en fait. Ils parlent avec leur corps.
Plus ou moins, ils parlent plutôt avec leurs expressions, voilà. Parce que comme ils ont, on va dire, les yeux un peu plissés, je sais pas si c'est le fait que c'est ça qui les perturbe, ils vont plus s'exprimer pour faire comprendre ce qu'ils ont envie de faire ressentir à l'autre. C'est comme ça. C'est un effet quotidien et il y a des médecins ou des psychologues qui incitent aussi les Japonais à s'exprimer de plus en plus pour exprimer leurs choses. Donc même quand on a un patron japonais pas content, il va faire le ressentir même dans la voix, enfin, il y a le tatanané. Enfin voilà, ça va partir très très loin,
c'est terrible,
très très
hein.
fort. Et il peut passer d'un moment à l'autre en mode tout va bien. Donc voilà. Donc ça, il y a ça qui fait qu'on accroche, on va dire, au mangaka japonais. Et c'est aussi, ça nous sort aussi du quotidien. On ne connaît pas ce mode de procédé, ce mode de fonctionnement, ce mode de vêtement. Donc, pour finir un petit peu sur cet étalage d'informations, on a donc... Alors, si vous verrez ce qui se passe à l'intérieur, il y a aussi des expressions à l'intérieur du studio qui sont assez épiques. Donc voilà, donc pour finir, il y a aussi les légendes mythiques, enfin les mythes et les légendes japonaises. On a les yokai, tout ça qui aussi sont intéressantes à voir. Je vous invite à aller regarder les yokai, ce sont les monstres japonais qui aussi incorporent dans leurs histoires à eux. Donc ils vont aussi beaucoup parler de leurs légendes et mythes légendaires que nous on ne connaît pas. Et forcément, ça nous intéresse puisqu'on ne connaît pas du tout ce genre d'histoire. On nous l'a pas raconté quand on était enfant.
C'est exotique aussi.
Voilà, donc on a aussi ce côté exotique qui fait qu'on accroche dans tous les cas. Et le dernier petit élément que je pourrais rajouter, ils ont beaucoup de genres.
Ah
nous,
oui,
on connaît
tout,
les shoujo,
hein.
Les shonen, les seinen. Ce sont différents types. Donc, le seinen veut dire un peu plus mature et un peu plus thriller, on va dire. Le shoujo, c'est pour les filles. C'est tout
bon
mignon, kawaii, choupi. Et le shonen, c'est pour les garçons avec un peu plus d'action. Donc, Naruto est un shonen, il faut le savoir. Les shoujo, on va dire que c'est plus Sailor Moon, mais il y a un petit peu d'action. Donc, c'est du shoujo sûrement avec une autre connotation, puisque savoir qu'il y a à peu près plus de 26 genres au Japon, répertorié. Nous, on n'en a que 3 ou 4, alors que là-bas, ils en ont beaucoup. Parce qu'on a aussi le hentai, qu'on connaît très bien. Le yuri et le yaoi. Pour ne pas prononcer ce que c'est, je vous invite à aller chercher. Pour conclure, ce sont de nouveaux genres d'histoires qu'on raconte, mais nouveaux pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui est très connu des gens depuis des années et des années. Que je vous invite aussi, par curiosité, vous renseigner.
Bien, bien, passons merci à l'agenda.
Agenda. Alors, à partir du 1er juillet, le 8 Fab Lab ouvre le 8 Plus. C'est un espace de coworking. On se retrouve juste à l'étage au-dessus, hein, au second, au-dessus du 8 Fab Lab, 8 rue Courcomer à Cré. On vous mettra le lien vers plus d'informations.
Avec AAA.fr.
Voilà.
Passons à notre rubrique astrologique. Alors, qu'as-tu découvert dans ta boule de cristal ?
Alors, je frotte les mains, je regarde.
Ouh, science-fiction. Alors, il y a la grève de la porte des étoiles qui est toujours en continuité, et le téléporteur, malheureusement, est inondé. Donc, prenez un vaisseau Ouigo, ça va toujours un peu plus vite.
Cosplay. Envie de prendre de la hauteur pour voir vos idoles ? Venez en échasse à la Japan Expo.
Gamer. Le 3, c'est fini. C'est parti pour la bronzette sur Long Beach.
Rôliste. Il ne faut jamais tuer la peau de l'ours avant de l'avoir mangée.
Ok.
Ça fait rire.
Respire. Respire.
Otaku, ça vibre ? Non, ce n'est ni un appel, ni un SMS. Vous avez franchi la barre des 10 000 pas. Bravo, vous êtes sorti de chez vous.
Libriste, si Tarzan sort bientôt au cinéma au Canada, attention aux gnous.
Georges
vous aura
prévenu.
Ah, lol. Eh bien, merci Mémiman, merci Anya pour nous avoir accompagnés sur la chronique Underscore.
Merci
à Nicolas
aux auditeurs
pour la technique. On vous adore et puis à très bientôt pour un prochain épisode.
À bientôt. We'll be right back.